Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Le sujet que l'on voulait évoquer avec vous aujourd'hui, c'est la gestion de la victoire. On a beaucoup parlé de l'exigence de la victoire, maintenant on va parler de la gestion. On parle souvent de comment rebondir après une défaite, un peu moins de la victoire peut-être. Cette semaine, Loïse Boisson a été éliminée au premier tour de l'US Open et pour certains, elle a du mal à enchaîner après sa demi-finale ultra médiatisée de Roland Garros. Pauline Ferrand-Prévot est revenue hier et va désormais devoir gérer l'attente après sa victoire du Tour de France. On en parlait tout à l'heure. La question que l'on voulait vous poser, les GG ce matin, c'est à travers vos expériences, puisque c'est le but de ce vestiaire, c'est comment on rebondit après une grosse performance, comment on gère finalement les lendemains de victoire. Ça ouvre plusieurs débats. Alors, entrez dans la discussion avec vos GG au 32-16. Tiens, je voulais commencer par Sarah pour ouvrir la porte du vestiaire. Sarah, replongeons peut-être dans ta carrière de joueuse, la gestion de la victoire, t'as toujours bien géré ça ou pas?
Disons qu'on fait un sport où quand vous performez, c'est-à-dire que vous battez une joueuse plus meilleure que vous, ou que vous n'avez jamais battue, ou vous allez au bout d'un tournoi, la réalité, elle vous rattrape très vite puisque on joue toutes les semaines. Donc dès le dimanche, si vous gagnez un tournoi, vous rentrez et le lundi, c'est reparti. Vous êtes attendu sur le terrain et autant vous dire que les joueuses ont bien l'intention de vous faire remettre les pieds sur terre. Donc on est un sport où il est difficile de se complaire ou en tout cas de se satisfaire d'une victoire. Ça vous rappelle vite à l'ordre. Alors moi je vais vous raconter une petite anecdote, elle est rigolote parce que j'ai eu une carrière assez modeste, mais j'ai eu des belles victoires et une victoire en France qui ont joué ce qu'on appelait l'Open Gaz de France qui se jouait pas très loin d'ici, l'équivalent de Bercy pour les hommes, qui a existé longtemps. C'est le plus gros tournoi féminin français et on était attendu et je bats Amélie Mauresmo qui était numéro 1 française, je crois, à l'époque. Mais j'étais surtout menée dans ce match-là. Je crois que je perdais 5-0 au deuxième et que je renverse et je gagne le match. Et donc j'arrive en conférence de presse, je voulais vite évacuer la conférence de presse et dans le tableau derrière il y avait une certaine Serena Williams. Je me suis un peu emballée en disant que bon, après avoir battu Amélie, je donnais rendez-vous à Serena Williams le lendemain, hein. Bon, j'ai été vite rattrapée.
T'as pris combien?
C'est bien.
Ben, c'est bien. J'arrive, tu sais quoi? Je ne sais plus. Il faudrait que j'aille vérifier, mais c'était pas terrible. J'ai donc vite été rappelée, mais.
6-1, on a vérifié.
Vous avez, ben, très bien. Donc, j'ai été vite rappelée par la patrouille. Et donc, voilà, en fait, vous pouvez pas vous enflammer parce que de toute manière, il y a souvent un match derrière. Mais alors, celui-là, c'est-à-dire que j'aurais dû tourner 7 fois ma langue dans ma bouche et surtout aller prendre une bonne douche avant d'aller me présenter devant les journalistes.
Sur la...
Oui,
confiance, tout était possible derrière.
Oui, bah, tout était possible dans le feu de l'action. Donc voilà, mais c'est dire que dans notre sport, c'est-à-dire qu'il faut vite passer à autre chose. Donc vous êtes vite rattrapé et la gestion des excellents résultats, ce qu'on appelle la confirmation, vous pouvez avoir une super saison. On parle de Loïse Boisson, c'est-à-dire qu'elle va monter au classement. Quoi qu'il arrive, n'importe quel résultat, c'est mécanique. Donc elle va peut-être finir dans le top 30 à la fin de l'année sans faire des résultats incroyables. Enfin, il faut quand même rappeler qu'elle a gagné un tournoi en Hambourg sur terre battue, que sa surface de prédilection est la terre battue, qu'elle découvre d'autres joueuses, d'autres surfaces, d'autres tournois. Donc soyons quand même un peu indulgents. Mais ça la rattrapera et elle aura le meilleur classement de sa carrière en décembre. Mais à partir de mai l'année prochaine... Il y aura cette demi-finale de Roland-Garros qui va l'attendre et ça, les points qui vont aller avec.
Hein. Ouais, pour reparler sur le prisme de Loïse Boisson, en fait, son vrai classement et son vrai niveau, entre guillemets, on va le connaître au lendemain de Roland-Garros 2026. Parce qu'elle aura eu une année complète avec les points qu'elle avait gagnés, qu'elle doit défendre, et là, on va voir. Et effectivement, ça va la rappeler, elle a gagné quand même un tournoi WTA. À Wimbledon, c'est la première fois qu'elle joue sur gazon, bon, elle perd. Et là, aux États-Unis, elle était un petit peu blessée. Elle a fait un seul match de préparation avant l'US Open et elle s'incline au deuxième tour, je crois, contre Golubic. Bref, donc pour l'instant, elle est en train d'apprendre. Et c'est pas elle, je veux dire, ses mauvaises performances entre guillemets, c'est pas parce que par rapport à, elle n'est pas restée sur son nuage et sur ses lauriers du de la demi-finale de Roland et elle se dit ça y est, c'est arrivé, elle en fout plus une, etc. C'est pas ça du tout ce qui se passe. Au contraire, déjà, elle cherche des solutions, elle va changer d'entraîneur, elle va se staffer, elle va pour continuer à progresser. Et pour revenir un peu plus précisément sur notre, pas notre débat, mais notre question un petit peu ouverte.
La gestion de la victoire.
Sarah et moi, on est dans un sport où c'est très compliqué. C'est peut-être pas pareil que David, qui lui a gagné au plus haut niveau. On l'a vu tout à l'heure avec les médailles olympiques, mais qui entre temps, il a été champion du monde, champion d'Europe, etc. Mais n'a pas une compétition toutes les semaines. Il a du temps, soit pour récupérer, soit pour gérer une blessure ou un accident comme il a pu l'avoir. Et ça l'empêche pas, avec une énorme préparation et un énorme mental, de pouvoir être performant le jour J dans la plus grande compétition. Nous, le tennis, c'est non-stop tous les jours ou toutes les semaines en fonction. Et effectivement, moi je me souviens, Simon tout à l'heure en hors antenne me parlait de ma victoire contre Federer à Bercy en 2009. C'était un mercredi soir, mais le lendemain je joue Gaël mon fils à 18h. Ouais. Et en fait,
tu repars à zéro, oui.
Et nous, quelque part, pour moi, c'est plus dur de jouer Gaël le lendemain à 18h que de jouer Federer la veille. Gaël à Bercy, à Paris, avec mon style de jeu, avec son style de jeu, avec son physique, sa défense, c'est un enfer. Et donc, si on s'arrête les yeux du grand public, ils disent bon, bah Benito, c'est bon, il a fait l'exploit contre Federer, il a fait la fête toute la nuit, il est arrivé contre mon fils.
Mais ça, tu l'entends aussi, on te le dit certainement. T'as battu Federer.
T'es obligé de. Donc demain, on peut pas. Mais ça, non. En fait, les vrais.
Toi, t'arrives à maintenir ta ligne.
Ah ouais, moi je me souviens. C'est même frustrant. C'est-à-dire que tu peux pas profiter. Oui. D'une belle victoire comme ça. Tu rentres chez toi ou dans ta chambre d'hôtel. Je crois qu'à l'époque, je dormais à mon domicile. Et je suis rentré, il était 23h au minuit. Bon, bah, ok, merci, au revoir, on va au lit. Et puis le lendemain, c'est reparti et je dois me préparer parce que je joue demain soir contre Gaël et que ça va être encore, et que ça va être plus dur que ce que je viens de faire. Et donc, quand t'es dans un sport où t'es remis en question chaque semaine, en fait, la gestion de la victoire, elle est à peu près pareille que la gestion de la défaite pour nous. C'est-à-dire qu'il faut être capable, émotionnellement, de vraiment rester stable. Et c'est une phrase de Kipling qui est marquée en haut du central de Wimbledon avant de rentrer sur le terrain. C'est si t'es capable de rencontrer défaite et victoire et de traiter ces deux imposteurs de la même façon, alors tu seras un homme, mon fils. Mais c'est, pour nous, c'est exactement ça. Et moi, ça m'avait marqué quand j'ai joué sur le central de Wimbledon pour la première fois en 2006 contre Andy Murray. Quand j'ai lu cette phrase, en fait, la carrière d'un joueur de tennis, c'est ça. Mmh. C'est quel que soit le résultat, victoire ou défaite, il faut pas monter très haut et il faut pas descendre trop bas.
Comment gérer la victoire? Comment rebondir après une grosse performance dans le vestiaire des GG sur AMC? David Douillet.
Moi, en fait, c'est vrai qu'on a des disciplines différentes avec des rythmes différents, mais je trouve que les principes restent les mêmes. Et vous avez Sarah et Julien décrit pour moi un truc fondamental. Il faut pas changer. Voilà. Mmh. C'est-à-dire que il y a tout un niveau de pollution qui arrive lorsque tu bats un grand joueur ou lorsque tu gagnes une grande compétition qui est là et là il faut trouver l'imperméabilisant, t'en badigeonner sur tout le corps pour que ça ruisselle sur toi et que ça ne t'imprègne pas. Il faut rester soi-même. Et c'est vachement dur. C'est hyper dur. Donc si t'arrives à faire ça, t'as toutes les chances pour la prochaine compétition ou le match du lendemain à repartir avec tes bons réflexes, sans avoir changé, sans oublier quoi que ce soit, tous les petits détails qui te permettent de faire ce premier exploit pour enchaîner l'autre, eh ben il est obligatoire, tu vois. Si tu fais pas ça, c'est fichu. Si tu te laisses imprégner par le contexte autour de toi que t'as provoqué en termes de médias, en termes même les personnes de ton entourage, tes plus proches, qui viennent te féliciter, te congratuler, etc., 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 tu peux vite t'échapper à toi-même et perdre le fil de ce que tu es. Et si tu perds le fil de ce que tu es, bah forcément, tu changes et t'es quelqu'un d'autre le lendemain.
Mais justement,
c'est un des trucs importants, ça.
David, hier, on en parlait, il y a aussi, tu parles d'imperméabilisation, il y a cette dimension quand même, comment dire, ce que ça projette aux yeux de, tu parles de l'entourage, du grand public. Sarah racontait que sur l'adrénaline, en effet, tu as envie d'y croire. Dans quelle mesure vous devenez à ce très haut niveau, vous aussi spectateur de votre performance, j'entends, comment résister justement, en fait, ah ben finalement, mais ouais, c'est compliqué, ça va être compliqué, mais en fait, mais je peux le faire, et tout le monde croit en moi, et tout le monde pense que je vais le faire. Est-ce que il y a une part de, je sais pas, est-ce qu'on arrive à être convaincu par ce qu'on a projeté au grand public, j'entends.
Faut surtout pas.
Ouais, mais justement, comment tu te protèges de ça, parce que c'est naturel, tu vois les réactions que ça provoque, tu vois la joie que ça provoque, viens de le faire, tu l'as accompli.
Mais tu le fais. Ouais. La satisfaction, tu l'éprouves pour toi avant tout. Avant de penser sur le regard des autres, c'est qu'est-ce qu'une victoire face à un super joueur ou la concrétisation d'aller au bout d'un tournoi et d'être le dernier le dimanche.
Ouais, tu le fais pour toi.
Tu le fais. Enfin, le bien-être, le sentiment de devoir accompli, il est d'abord pour toi, en fait. Et puis après, s'ajoute, tu le partages avec tes plus proches, c'est ton entraîneur, ton staff, ta famille ou ta femme. C'est ce petit cocon-là qui te satisfait. Après, le regard extérieur, il est dans un deuxième temps.
Ouais,
il est dans un deuxième temps.
Il faut avoir cette complètement psy et pas facile à avoir. T'as raison, Simon. Il faut oublier. Il faut avoir cette faculté à oublier. Moi, j'avais un truc qui était un truc un peu mémo technique. Pour moi, j'avais devant moi dans ma tête un immense placard avec des tiroirs, plein de tiroirs. Et si j'avais un problème, et si je devais ne pas penser à ce problème, et la victoire en est un problème pour continuer. Eh ben, il fallait que je range ça dans le tiroir et que je le ferme, pour plus que j'y pense. Après, je pourrais le ressortir comme je veux, après coup, quand je suis rentré chez moi, quand tout ça est fini, etc., etc., je peux en profiter, etc., etc. Mais si j'ai quelque chose à faire, qui doit me demander une concentration ultime et totale, il faut que ce tiroir reste fermé. Et ça marche pour la blessure, ça marche pour un problème de la vie de tous les jours, d'ordre personnel, etc., etc. Tu fermes le tiroir et t'y touches plus. Et si tu commences à y repenser, tu dis non, oh, stop, le tiroir il est fermé. On arrête là tout de suite. Sinon, tu te perds, tu laisses le tiroir ouvert et tu pars dans le truc et ça t'enlève quelques pourcentages qui te permettent de perdre, pour le coup, et qui ne permettent pas d'être optimisé. Si tu perds 1 ou 2% de tes facultés, de ta concentration, ça demande tellement d'engagement pour pouvoir gagner que t'es fichu. Si t'as 99%, t'es fichu. Il faut être à 100%. Donc les tiroirs doivent être tous fermés lorsque tu démarres ton autre compétition ou ton autre match pour pouvoir être à 100% de ce que tu es. Sinon, tu deviens quelqu'un d'autre et là, c'est fini.
Comment gérer l'après-victoire, après une grosse performance, comment on rebondit? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans le vestiaire des grandes gueules du sport sur RMC.
Moi, je trouve ça passionnant ce que tu viens de dire, David, et je vais retenir l'expression « la victoire est un problème ».
C'est une problématique.
Et ben, je trouve ça passionnant à entendre. Justement, moi, je vous pose la question. C'est plus facile d'arriver sur le terrain ou le tatami à 100% après une défaite qu'après une victoire?
Ça dépend des circonstances.
Ouais, ça dépend.
Quand on disait que ça, comment dire, que d'abord c'est une satisfaction personnelle, après. Et qu'en deuxième position, enfin, dans un autre temps, il y a l'entourage,
les attentes.
Etc. Ouais. Après, il y a les circonstances qui font que ça peut t'amener un supplément de
pression.
Pas de pression ou de motivation encore plus. Ah je m'explique. Dans le tennis, par exemple, les grands chelems, Roland Garros. Quand tu arrives au troisième tour ou en huitième de finale, tu bats des bons mecs, donc tu fais des bons matchs. Tu dois revenir deux jours après, il y a moins de Français. Il n'y en a plus qu'un. Il n'y en a plus que deux. Et là, justement, tu te dis, il y a l'attention sur toi. Et là, tu te dis, je veux continuer. Et je pense que Boisson...
T'as ton ego qui entre en... Ouais,
bien sûr, parce que là,
t'as l'attention sur toi. Hormis si t'es cinquième mondial ou deuxième mondial et que tu l'as tout le temps, tu l'as pas. Moi, je l'ai eu une ou deux fois à Roland-Garros, là-dessus, ça. Mais t'as envie que ça continue. t'as envie.
Ouais, ça précisément, ça te tu dois le ranger dans le tiroir. Parce
bien sûr,
que
mais tu le ranges toi. Mais c'est une somme. Et tu te dis, ok. Et quand c'est dur, ou et inversement, il y a une émulation. Quand t'en as 3 ou 4, là, il y a un jour, les Français, ils étaient à 4 sur 4. Je peux vous dire que Manarino,
quand à l'US Open.
À l'US Open, quand il part sur le terrain, que c'est le dernier Français. Mmh. Au troisième tour ou au deuxième tour, et que tous les autres sont qualifiés au troisième tour.
T'as envie de le faire.
Mais lui, t'as envie de le faire. T'as pas envie d'être le seul Français de la journée à perdre. Ça te trotte
mais,
dans la tête.
Oui, mais donc c'est insidieux, on est bien d'accord.
Bien sûr, c'est insidieux.
C'est donc, pas quelque chose de formalisé. C'est cette petite chose qui
Et c'est complètement contextuel. C'est pas ça qui te sert de moteur tout au long de l'année. C'est que parfois, t'as un contexte qui va faire que t'as envie encore d'aller gagner. Et donc, de retourner sur le terrain après une victoire. Et pas forcément plus difficile à ce moment-là, parce que t'as envie d'y aller, tu continues à vouloir ressentir ça.
Après, ce qui est intéressant aussi quand on vous écoute, c'est qu'on gère pas forcément tous la victoire de la même façon. Il n'y a pas bien une sûr. Bonne façon de gérer la victoire.
Personne ne gère la défaite. C'est ce que disait Julien. Où est-ce que tu mets la victoire et la défaite? Si tu arrives, en tout cas dans notre sport, à les mettre au même niveau, tu t'enlèves une épine du pied, ouais. Je le disais hier. Au tennis, tu perds une fois par semaine. Donc, si tu ne sais pas où mettre la défaite,
c'est très dur.
Au
tennis, un 3e mondial, il perd autant qu'il gagne de matchs. Le ratio, c'est une victoire et une défaite sur une saison.
Ce qui m'impressionne dans votre discipline, c'est que le temps est long dans le duel. Et je trouve ça, moi, je prends un kiff, mais dingue. Quand je vois deux joueurs, quand j'ai vu Alcaraz Sinner là, par exemple, quand je vois des joueurs qui sont capables de ranger dans le tiroir pendant le match,
ouais.
Tu vois,
c'est-à-dire qu'ils
ont des problèmes et ils sont capables de les isoler et de mentalement dire bon, allez, ok, j'ai ce problème là, ça faut plus que je m'en occupe, ça je le mets dans le tiroir, ça faut plus que et ça
c'est,
me pose.
C'est
fantastique.
Ce qui fait que ce sont des méga champions.
Mais ce qui est fou, ce
et voilà, et ça c'est fabuleux.
C'est que pendant 4 heures ou 4 heures et demie, ils utilisent, pour reprendre ton image, beaucoup de tiroirs.
Mais ouais.
C'est ça qui
est ça, ouais.
C'est parce
exactement.
Que, comme tu dis, à un moment donné, il y en a un qui prend le dessus, donc l'autre, il va falloir qu'il aille chercher des solutions, il mette, et puis il revient, et puis finalement, il n'arrive pas à conclure. Donc il faut réutiliser. Et ça, pendant 4h30, 5h, c'est ce qui en fait que.
C'est phénoménal.
Que c'est fabuleux à regarder.
Mais David, moi je me pose la question parce que je t'écoute sur les tiroirs que tu nous expliques depuis tout à l'heure. Ça veut dire que par exemple, Sydney 2000, là on l'a écouté il y a quelques instants quand t'es champion olympique pour la deuxième fois, quand t'arrives sur le tapis pour la finale, sur le tatami.
C'est quoi, tu veux marquer l'histoire? C'est quoi le truc?
Atlanta 96, tu l'as mis.
Non, mais c'est vrai, c'est quoi le truc? C'est que tu veux marquer l'histoire?
Et Atlanta, tu l'as mis dans le tiroir avant?
Bien sûr. Mais heureusement, et je l'avais mis dans le tiroir depuis bien longtemps. Non, moi, le seul truc qui m'importait, c'était de faire, j'étais sur la quête du combat parfait. Voilà, de la perfection du geste, de la perfection du mouvement, de la perfection tactique, de la perfection mentale, de pas lâcher, etc., etc., du combat parfait. Et j'y suis pas arrivé parce que j'ai commis des erreurs même lors de cette finale. D'ailleurs, c'est un sujet intéressant cette affaire, c'est d'analyser aussi froidement et aussi objectivement ces victoires comme ces défaites, parce qu'une défaite c'est facile à analyser.
T'as perdu. On a beaucoup de recul et beaucoup de hauteur sur soi-même. Hein. C'est
non,
dur,
je t'assure,
ça.
Franchement, mais oui, c'est dur, mais je veux dire, moi, j'ai pas eu une victoire sans avoir commis des erreurs. Et j'ai eu des victoires dans lesquelles j'aurais pu ne pas gagner parce que j'ai commis telle et telle erreur. Et d'avoir cette humilité, et il faut être humble par rapport à ça, de se dire, bon, ok, j'ai gagné, très bien, tout le monde est content, c'est parfait, etc. Mais là, j'aurais pu perdre. Et à ce moment-là aussi. Et à ce moment-là, t'as déconné. Et à ce moment-là, t'as fait ça, etc. Et d'analyser froidement, de mettre le champagne de côté, tu vois, et d'analyser froidement ces victoires avec autant d'objectivité que c'est. Là, t'avances aussi vite que lorsque tu perds, tu vois. Et ça aussi, c'est très important pour la suite.
Julien.
Mais cette quête de la perfection que tu recherchais, elle était forcément nécessaire parce que les autres ne t'attendaient pas. Tes concurrents, les Japonais,
si,
etc.
Si,
ils t'obligeaient à avoir ça.
Ouais, mais ils m'attendaient. Je veux dire, quand ils m'ont vu le matin à la pesée, ils ont vu que j'étais entier. Ils ont vu que ça se passe. Par contre, je l'aurais pas raconté.
Non, quand je dis ils t'attendaient pas à ce niveau. C'est pas ça que je veux dire. Ils t'attendaient pas. C'est-à-dire que eux, ils voulaient te faire tomber. Justement, c'est ça. Donc ils te poussaient à devoir être dans cette quête de la perfection pour que
oui,
tu
mais
puisses.
Ça c'est naturel, ça fait partie du scénario, ça c'est admis depuis longtemps. Mais tu sais ce qui m'est arrivé, je l'ai dit quelques fois, mais quelques heures avant de démarrer la compétition à Sydney, bon, j'ai un problème de coude qui est récurrent, que j'ai encore aujourd'hui, j'ai mon coude qui se bloque, tu m'entends, en prenant ma douche avant de partir au stade. Il se bloque, c'est le médecin qui me débloque le coude, parce que j'ai du cartilage qui se balade, etc., etc. C'est-à-dire que j'ai une épée de Damoclès pendant toute cette compétition, à n'importe quel moment, comme en prenant ma douche le matin, mon coude peut se bloquer, la compétition peut s'arrêter, à n'importe quel moment. Si j'ai pas mon système de tiroir, si je me dis, bon, ça, tu le mets dans le tiroir, tu n'y penses jamais, jamais je peux faire la journée, tu vois.
Ah, bien sûr.
Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne comme ça. Pour tous les sujets, quels qu'ils soient médiatiques, qu'ils soient d'ordre personnel, physique, etc. Et même de gestion de la victoire, quand t'es celui qu'on attend parce que t'es celui qui est tenant du titre, etc., etc. Tu le mets de côté. Tu arrives, t'es rien, en fait. T'es rien comme d'habitude. Comme la première fois où t'as noué une ceinture autour de ta taille et que t'as fait ta première compétition au championnat de Seine-Maritime. T'es rien. On n'est jamais rien. Le lendemain d'être champion olympique ou champion du monde, le lendemain, tu n'es plus rien, en fait. C'est ça, le truc. Et quand t'arrives à te mettre ça dans le crâne, ça t'ouvre tout, quoi. Tu restes vigilant, tu restes avec une vraie envie, tu restes avec une fraîcheur, tu restes avec une capacité d'écoute, tu restes avec tout ce dont tu as besoin pour refaire à nouveau.